Donc, nous allons ouvrir cette journée après les présentations de Michel Wieworka et de José Mbouté, donc avec la première conférence plénière, celle de Ruth Amossi. Alors, Ruth Amossi, elle est rédactrice en chef de la revue Argumentation, Analyse et Discours, professeure émérite à l'Université de Tel Aviv. Elle a publié de nombreux ouvrages et des articles sur la présentation de soi, l'éthos dans le discours, la composante argumentative dans le discours, la mise en discours aussi de la guerre et de la paix. Elle prépare actuellement un numéro spécial pour notre revue, notamment sur la réparation d'images dans le discours de campagne, perspective discursive argumentative. C'est avec grand plaisir que je vais donner la parole donc à Ruth.
Alors, c'est bien sûr un grand honneur pour moi d'être l'invité de Langage et Société, une revue que j'apprécie tout particulièrement et qui est une source d'inspiration, effectivement, pour moi en tant que rédactrice en chef de la revue Argumentation et analyse du discours. J'ai lu avec le plus grand intérêt ce double numéro dirigé par Josiane Boutet, qui présente des synthèses très complètes, mais aussi des propositions stimulantes pour l'avenir et qui donne un panorama tout à fait remarquable des études effectuées ces 40 dernières années sur le langage dans son rapport à la société, dans tous, peut-être pas tous, mais dans de nombreux domaines de savoir où elles se sont développées. Alors, bien entendu, il ne me sera pas possible de reprendre, de discuter chacune de ces contributions, dont, vous le savez sans doute, une partie se situe d'ailleurs dans des domaines en dehors de mes compétences. Et je voudrais plutôt traiter de quelques questions transversales, j'entends, qui traversent une grande partie des articles et qui relèvent d'une réflexion de fond sur le sens et les démarches de nos disciplines. Et il s'agit en gros des limites disciplinaires, des études du discours, des approches critiques, on peut dire de l'engagement, et de l'absence remarquable, mais peu remarquée, de l'argumentation au sein des sciences du langage qui se réclament du socio-discursif. Donc, je vais dès l'abord puiser quelques exemples dans le domaine de l'argumentation rhétorique qui est le mien, pour l'inscrire au cœur des réflexions que déploie ce double numéro de Langage et Société. Alors, on va commencer par une question qui a déjà été discutée dans l'introduction, qui est celle des disciplines et des approches disciplinaires. Bon, bien indiqué dans le titre « Langage et société », qui marque qu'on ne s'installe pas dans une discipline constituée, institutionnalisée, mais dans un questionnement global qui peut revêtir des aspects très divers et donc se décliner en mobilisant des savoirs issus d'horizons très différents. Et Alexandre Duchesne le dit dans ce numéro, il note que la revue n'est pas une revue de linguistique ni une revue de sociologie. Elle n'est pas pensée comme disciplinaire. Et Johannes Angermüller, ici présent, parle de cet espace pluridisciplinaire qu'est langage et société. Donc Josiane l'indique d'entrée de jeu dans son introduction. La revue dessine un périmètre scientifique pluridisciplinaire qui comprend non seulement la sociolinguistique et l'analyse du discours abordée initialement dans les années 70, mais aussi la sociologie du langage, l'analyse des interactions et l'anthropologie du langage. C'est une citation. Alors bien sûr, quelque chose unit d'entrée de jeu ces approches, par ailleurs différenciées. C'est la conscience que le langage n'est pas seulement un objet autonome dont il faudrait dégager les règles et analyser le système interne, mais une parole située, c'est-à-dire ancrée dans une situation sociale et participant d'une pratique sociale. Donc, on peut dire de cette relation au sens large ce que Duchesne dit de la sociolinguistique. Elle met au centre de ses investigations, je cite là, la part sociale du langage, et en même temps, elle est fondamentalement engagée dans une réflexion sur la part langagière du social. Donc, elle s'intéresse ainsi à l'intersection entre langage et société, en considérant les pratiques langagières comme inscrites au sein de processus socio-économiques et politiques, et les pratiques sociales comme, en partie du moins, et là je cite Ambi, des pratiques organisées, effectuées et caractérisées par le biais du langage. Bon, donc, si vous voulez, un trait d'union entre les sciences du langage et les sciences sociales. Alors, évidemment, quand on regarde le volume, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que finalement, les sciences sociales sont assez peu représentées. Alors, est-ce que ce serait le refus de dialoguer avec, de la part des sociolinguistes, des analystes du discours ? Non, certainement pas. En tout cas, pas si on en croit ce que manifeste ce double volume. Même si Duchesne, à un moment, reproche aux sociolinguistes, je cite, leur incapacité à expliquer en quoi leurs travaux peuvent revêtir une pertinence au sein des sciences sociales. Donc ce serait un petit peu la faute des sociolinguistes. Il semble cependant que le phénomène relève du fait que le langagier reste encore minoré dans des domaines comme la sociologie. Et pourtant, cette nécessité pour le sociologue de prendre le langage comme objet d'étude a été vigoureusement défendue depuis longtemps déjà. Je pense ici au compte-rendu qu'a publié Bernard Lahire en 1994 dans la Revue française de sociologie, du livre de Pierre Achard, donc la sociologie du langage. Et il y notait qu'il ne suffit pas de faire une sociologie du langage comme on fait une sociologie de la religion ou de l'éducation. Le sociologue, disait-il, devrait adopter une position épistémologique forte, tenant compte du fait que le langage, je cite, est présent dans toutes les activités des acteurs sociaux et que toute sociologie traite, en le sachant ou non, de pratiques langagières. Bon, en d'autres termes, les chercheurs en sciences sociales devraient prendre conscience du fait qu'ils analysent toujours du langage, qu'ils sont parfois des analystes non conscients du discours. Alors, ce qui est amusant, mais c'est entre parenthèses, c'est que Lahire reproche à Pierre Achard, pour qui justement la prise en compte des pratiques langagières devait mener à reconsidérer les fondements théoriques de la sociologie dans son ensemble, il lui reproche de ne pas avoir suivi ce programme dans son livre. Mais enfin, ceci est une autre question. Donc, la critique de la part congrue réservée au langage dans les sciences sociales se dégage bien de ce double numéro. Dans leur présentation de la sociologie du langage, Angermüller et Glady notent que la centralité du langage dans la participation des individus à la société n'a pourtant, disent-ils, pas donné lieu à un courant de recherche ou à une perspective théorique ou méthodologique établie. Et ils intitulent leur article « La sociologie du langage, perspective d'un champ émergent », tout en faisant évidemment part des avancées qui ont eu lieu dans le domaine. Alors peut-être le lecteur du numéro spécial reste-t-il un petit peu sur sa faim. On aimerait entendre plus de voix issues de la sociologie, pour ne pas parler de la science politique qui n'apparaît pas vraiment dans ce bilan. On peut voir par contre qu'une partie des approches linguistiques ne se contente pas d'éclairer la part sociale du langage, je veux dire, il ne se limite pas à analyser la dimension sociale du discours pour mieux comprendre son fonctionnement propre. Donc, il ne s'agit pas pour les analystes juste de mettre en lumière la nature socio-discursive des phénomènes langagiers étudiés, de montrer le social dans le langagier. Ils veulent aussi démontrer que la focale sur le langage permet en dernière instance de mieux appréhender la réalité sociale et donc d'en dévoiler les mécanismes cachés et les logiques. Ça, c'est très important. C'est un point de vue qui est nettement exposé dans l'article inaugural de Josiane Boutet, qui donc reprend la fameuse distinction entre l'objet étudié et l'objet visé. Le premier, c'est l'objet discursif ou textuel que le chercheur construit. Le second est le phénomène social que le chercheur vise à saisir et à faire comprendre. Donc, elle distingue bien entre les travaux pour lesquels l'objet visé reste interne, c'est-à-dire d'ordre linguistique, par exemple, je ne sais pas, le changement linguistique, et le second, qu'elle attribue à la sociolinguistique critique, sur laquelle je reviendrai. Dans le second, l'objet spécifique est à l'inverse de rendre compte, in fine, du fait social, des faits sociaux, par le biais, par l'entrée spécifique des langues et du langage qui constitue l'objet étudié. Fin de citation. Cette contribution de la sociolinguistique à la compréhension de la réalité sociale est bien mise en avant dans, entre autres, l'article de Duchesne qui explique comment notre focus sur la langue permet de comprendre comment se produisent des différences et des inégalités. Et c'est bien entendu ici le point de départ, le point de vue, si vous voulez, de la critical discourse analysis, Fairclough voyant l'analyse du discours comme une partie de et une contribution à la critique que développent les sciences sociales et en offrant, si vous voulez, à cette entreprise une entrée langagière précieuse. Bon, en bref, nous ici réunis, je crois, croyons au pouvoir des cadres analytiques que nous utilisons pour explorer le discours dans toutes ses dimensions et leur capacité à éclairer des phénomènes sociaux et politiques importants. Nous pensons tous que la linguistique du discours peut non seulement apporter une contribution importante dans le cadre des sciences du langage, mais aussi être mobilisée dans d'autres disciplines traitant de ce que mon maître à penser Perelman appelait les affaires humaines, comme l'histoire, la sociologie, la science politique, les sciences de l'éducation, la psychologie ou l'économie, comme le montrent Thierry Guibert et Frédéric Le Baron dans un article novateur de ce numéro. Alors, ceci nous amène à la question, elle aussi centrale dans le numéro anniversaire, de la relation entre les disciplines dont on a déjà un petit peu parlé, donc je vais aller vite. On peut parler évidemment de pluridisciplinarité, puisque dans l'espace de la revue, on trouve une addition de disciplines qui gardent chacune leur autonomie, de manière à offrir une juxtaposition de points de vue qui délivre chacun une connaissance particulière sur le phénomène étudié. Là, je suis en train de citer Charodeau. Donc, le rapport entre le discursif et le social. Alors, les contributions, et ça c'est quand même intéressant, sont loin de s'en tenir là, parce que une partie d'entre elles qui discutent de ce problème aspire à une forme plus active d'interdisciplinarité. Certaines la discutent et d'autres tentent d'en donner l'exemple. Je vais partir ici de l'article de Philippe Ambi sur « Langues et discours comme objets sociologiques ». Dans la mesure où cet article fait entendre une revendication explicite et forte, il entend expliquer et illustrer ce qu'il appelle le vagabondage interdisciplinaire qu'il appelle de ses vœux. Hein, c'est joli ça. Il prône donc, je cite, un positionnement qui invite à transcender les frontières entre disciplines afin de dépasser les logiques de clôture qui n'ont, selon lui, pas de fondement scientifique au sein des approches sociales du langage. La raison, dit-il, en est que les pratiques langagières sont par définition des pratiques sociales envisagées dans leur matérialité discursive. Et donc, pour lui, le rapport entre le social et le langagier apparaît comme un faux problème. Bon, c'est une position ici assez extrême, puisque pourquoi un faux problème ? Parce que c'est fondé sur une division institutionnelle qui est arbitraire et pas sur des fondements scientifiques. Donc l'auteur invite les sociolinguistes et les analystes du discours à, je cite, « prendre place concrètement dans le champ de la sociologie et à contribuer davantage à la réflexion sur certaines questions sociologiques à partir de l'éclairage particulier qu'ils peuvent apporter. » Alors, c'est un beau programme, hein, c'est un programme d'ouverture méritant. On pourrait cependant lui opposer certaines réserves relatives aussi bien à l'impossibilité de contourner l'institution qu'à la démarche même de la recherche scientifique. Et là, bon, moi, je m'appuie ici sur les différents articles du numéro. Donc, Dominique Minguenot, ici présent, le formule bien en rappelant les acquis de la sociologie des champs, de l'analyse du discours, et moi, j'ajouterais de ce qu'on a pu appeler la rhétorique de la science. Et il dit que les spécialistes du discours devraient appliquer davantage leurs concepts et leurs méthodes à leur propre champ d'activité, qui est une remarque que j'aime bien. Non, pas de piquant. Et en effet, la recherche comprend des contraintes. La science, écrit Dominique, est une activité sociale qui se réalise à travers des communautés de diverses natures, nécessaires à la légitimation des résultats et à leur stabilisation, comme à la construction de l'identité et de la notoriété des chercheurs. Fin de citation. Bon, autrement dit, une relative clôture dans des champs institutionnellement découpé est nécessaire au bon fonctionnement de l'activité scientifique comme activité socio-institutionnelle et cognitive. Et Dominique ajoute qu'il s'agit d'une activité inscrite dans l'histoire qui comporte donc une tradition et des présupposés épistémologiques dont on peut difficilement faire l'économie. Bon. À ce propos, je vais reprendre un peu ce que disait Michel Vivorca tout à l'heure. Il convient de prendre en compte des questions qui dépassent les limites du positionnement institutionnel qui sont en partie d'ordre pratique, puisque bon, un chercheur doit avant tout s'approprier les cadres et les méthodes de sa propre discipline, hein, les maîtriser pleinement, en suivre les développements. Bien sûr qu'il prend connaissance de travaux dans d'autres disciplines, mais il ne lui est pas vraiment donné de maîtriser ses méthodes d'investigation et ses outils d'analyse. Et Duchesne le dit bien, même s'il le fait à titre de concession, notre socialisation ne nous permet pas toujours de comprendre la complexité d'un autre champ, parce que nous n'avons pas le temps de l'investir, parce que nous ne disposons pas de tous les outils qui nous permettraient de poser un regard raisonné sur ces travaux. Et dans ces circonstances, il est difficile de se faire une place dans un champ qui n'est pas le sien, et très hasardeux de s'y positionner dans un espace dont on connaît mal les repères. Et vous voyez, je ne parle même pas des considérations de carrière. Alors, je ne veux pas reprendre ici à grands frais la discussion sur l'interdisciplinarité focalisée qui avait été avancée par Patrick Charaudeau dans Questions de communication. Mais je plaiderai quand même, en allant dans son sens, pour un travail effectué dans des cadres scientifiques validés et dans un espace de réflexion qui, au sein d'une discipline donnée, permet une cohérence dans l'approche, les notions utilisées, les démarches et les outils d'analyse. Alors, l'élargissement des perspectives peut alors s'effectuer soit dans une tentative de pleinement intégrer dans un modèle unique des éléments empruntés à des horizons de savoir différents, soit de se situer dans ce que Magnot et Boutet en 2005 ont appelé une logique territoriale. Donc la première option, elle est exemplifiée ici par exemple par le travail de Paul Chilton, qui marie les sciences cognitives et l'analyse du discours en construisant un cadre d'analyse, arguant que les modèles construits à partir de l'enquête empirique offrent des outils qui permettent d'appréhender le discours. C'est un point de vue qui me rend toujours perplexe, je trouve ça très intéressant. En examinant le discours de Donald Trump, il montre comment se construisent par stimulation verbale des concepts du collectif, comme fermé sur soi exclusif, comment des réactions de peur sont suscitées par des représentations verbales de menaces, et comment la représentation des individus les montre capables de lever ces menaces externes. Donc, pour Chilton, les sciences cognitives contribuent à une analyse des discours en prise sur les questions dont traitent les sciences sociales et politiques. La seconde option, que nous connaissons bien, est celle, comme le dit la revue, qui groupe les chercheurs de multiples champs autour d'un même objet socialement sensible. Les usages du web, la publicité, l'échec scolaire, le chômage, les partis politiques. Chacun peut alors apporter son éclairage sur un phénomène social pris comme objet d'investigation. C'est d'ailleurs aujourd'hui la logique qui préside à de nombreux colloques quand on propose un thème de recherche et de réflexion, et puis il y a toutes sortes de chercheurs issus de disciplines différentes qui veulent participer. Alors, ceci nous mène à la question importante, je crois, des discourse studies que mettent en avant les articles de Dominique Minguenot et de Johannes Angermüller. Une problématique qui a aussi été traitée dans l'ouvrage de Dominique Minguenot, Discours et analyse du discours, paru chez Collin en 2014, et puis dans le Reader, coordonné par Angermüller, Minguenot et Vodak, The Discourse Studies Reader, de la même année. Donc il s'agit au fond de faire la différence entre l'analyse du discours comme branche des sciences du langage et l'approche transdisciplinaire du discours dans un nouveau champ, au contour encore flou, disent-ils, les études du discours, qui tiendrait de plus en plus à s'imposer sur la scène scientifique. Bon, là, c'est un vaste champ de recherche dans lequel s'inscrivent des disciplines variées, des approches différenciées, qui restent souvent distinctes et juxtaposées. Donc, elles réunissent dans un même horizon tous les courants qui se focalisent, au fond, sur le discours en situation. Dominique Minguenot note à ce propos que, je cite, « l'emploi de plus en plus fréquent de discourse studies » sur le modèle des nombreuses studies anglo-saxonnes, s'explique précisément par la volonté de prendre acte de la diversité de ces types en champs sans avoir à prendre parti sur la question de savoir si on peut l'organiser et si oui, comment. Fin de citation. Donc, on y retrouve des disciplines issues de la linguistique, aussi bien que des sciences sociales, peut-être qu'on fait un petit pas là dans le sujet dont on parlait tout à l'heure, La sociolinguistique n'y jouit pas nécessairement de la place centrale qu'elle occupe dans la revue Langage et Société. Et les sciences sociales sont invitées à y jouer le rôle qu'ils ont quand même un peu failli jusque-là à assumer. Angermüller note que si, en sciences du langage, la notion de discours renvoie à un champ disciplinaire de recherche spécialisée, dans les autres disciplines, elle désigne une problématique plus transversale et intellectuelle, mais il avoue lui-même, je cite toujours, « Le débat sur le discours ne constitue pas un espace intellectuel homogène et parfois on peut légitimement douter de ce qu'aurait en commun un spécialiste du langage des jeunes et un philosophe de l'éthique du discours, un linguiste qui analyse des corpus et un spécialiste des cultural studies qui théorise le lien entre langage et pouvoir. » Fin de citation. Pour moi, de mon point de vue, il me semble que ce champ d'exploration aux multiples facettes rejoint au fond quelque part l'objectif de la revue Langage et Société, comme le note d'ailleurs l'auteur lui-même en soulignant que l'ampleur du débat pluridisciplinaire autour du discours montre que le discours s'inscrit dans cet espace plus large qui est celui de langage et société, où se croisent les sciences du langage, les sciences sociales et les humanités. Bon, alors dans ce sens, moi je considère un peu que les discourse studies sont le prolongement et en quelque sorte l'aboutissement du projet de la revue Langage et Société, qui consacre sur le plan institutionnel, mais bien sûr très au-delà de l'existence d'une revue savante de langue française reconnue, qui donc consacre par des colloques, des manuels, un réseau, un site, etc., l'émergence d'un champ de recherche très étendu autour d'un objet diversement défini et diversement appréhendé, au sein duquel des courants divers peuvent se croiser pour se féconder, mais aussi simplement s'affirmer et coexister côte à côte sans se mélanger. Donc je ne sais pas ce qu'en pensent les tenants des discourse studies, on va voir cela dans la discussion. L'avantage pour moi d'une telle nébuleuse est de mettre le discours au centre des préoccupations en donnant une plus grande visibilité à tous les champs de recherche dont il relève et aussi à faciliter autant qu'il se peut les contacts, hein, les contacts et les éventuelles collaborations entre chercheurs issus d'horizons différents. Alors, je voudrais noter ici que ce qui m'intéressait, c'est que cette entreprise, bon, elle est bien sûr à l'image de celle qui s'est mise en place autour des gender studies, par exemple, mais elle est aussi assez parallèle à mon domaine propre, c'est-à-dire au champ des études en argumentation, dans lequel on trouve des courants extrêmement divers. Par exemple, certains relèvent de la philosophie, comme le informal logic, d'autres du droit, des études classiques, des sciences du langage, de la sociologie ou de la littérature. Et leur point commun, leur intérêt pour l'argumentation, qui est, comme le discours, l'objet de définitions diverses. Et donc ces regroupements ont permis sinon un décloisonnement, hein, c'est pas toujours le cas, du moins une mise en contact et une meilleure connaissance des objectifs et moyens des autres courants et disciplines. Donc, procure un espace de rencontre et de réflexion, ce qui est aussi l'objectif global de la revue, tel qu'il se reflète dans ce numéro anniversaire. Alors, cet espace global permet aussi de mettre en lumière les lacunes et les percées des divers courants d'études du discours dans sa relation sociale. Alors, dire que dans ce numéro, bon, certaines choses qui ne paraissent pas ou qui sont passées à la trappe, le discours de l'histoire. La relation complexe entre langage et société est pourtant constitutive. Donc on peut se demander si c'est en raison de l'histoire assez tumultueuse des relations de l'analyse du discours avec les historiens dans les années 70 et 80, je n'y reviens pas. C'est une question qui mérite d'être revisitée. Je voudrais surtout reprendre les remarques dans ce numéro de Dominique Maguenot, quand il déplore, auquel je m'associe, quand il déplore que la prépondérance des études sur les médias, le web ou encore la centralité donnée aux situations d'oralité ait marginalisé les études consacrées aux discours religieux, philosophiques et littéraires. Et on se trouve ici en fait face à un double écueil. C'est-à-dire que d'une part, il y a la méconnaissance, parfois le rejet de ces approches par les philosophes et les littéraires qui sont très soucieux de préserver leur domaine clos, et souvent réfractaires aux présupposés épistémologiques et aux démarches analytiques des spécialistes du discours. D'autre part, la minorisation de ces types de discours par les analyses du discours et les sciences du langage en général, et face à leur absence dans ce numéro anniversaire, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une lacune qu'il conviendrait de combler. Bon, on ne peut pas dire ceci évidemment de l'ensemble de la revue, hein, je parle du numéro anniversaire, mais si c'est une position assumée, il conviendrait de l'expliciter davantage. Alors par contre, les articles du numéro spécial présentent le cas de nouveaux domaines d'investigation, c'est très passionnant. Alors très rapidement, par exemple, Lorenza Mondada fait le point sur l'analyse multimodale en analyse conversationnelle, qu'elle illustre par l'exemple original des requêtes routinières dans des espaces commerciaux. Guibert et le Baron, dont j'ai déjà parlé, évoquent un nouveau terrain de recherche, le discours économique contemporain, qu'ils illustrent par leur étude des discours des dirigeants de la Banque Centrale Européenne. Jean-Léo Léonard traite de l'écologie des langues. Lucas Gréco met au centre de l'attention la performance, qu'il définit à la croisée des formes artistiques et des interactions sociales, et dont il entend faire un outil pour la sociolinguistique, ce qui me paraît extrêmement intéressant. Cécile Canu parle d'anthropographie filmique, William Kelleher des Linguistic Landscape Studies, et Michel Anzenot et Cyril Trimaille explorent les nouvelles approches de l'espace en sociolinguistique. Et tel était bien l'objectif déclaré de ce numéro, offrir une deuxième partie dans laquelle les auteurs pensent les chantiers scientifiques nouveaux qui s'offrent à nous, disait Josiane Boutet, une entreprise bien menée, dans la mesure où elle déploie les possibilités multiples que les courants de recherche émergents ou le développement de courants de recherche plus anciens offrent à l'exploration du réel à travers le prisme du langage. Alors, une place a été réservée ici à la question du numérique et à la mesure dans laquelle elle met en cause les méthodes utilisées jusque-là sur des corpus non numériques. C'est une question qui est explorée dans l'article de Christine Develotte et Marianne Pavot, mais que, en revoyant mon texte ce matin, j'étais obligée de supprimer parce que je sais que Josiane Boutet est très stricte sur les temps qui nous sont accordés. Donc on peut en reparler dans la discussion, si vous voulez. Là, je sabre ce passage, pourtant très intéressant. Et je voudrais passer maintenant à la qualification de critique et reprendre une question qui traverse une grande partie du numéro, celle de la position du chercheur. Donc problématique qui a été traitée à maintes reprises, vous le savez, l'article de Nathalie Heinisch de 2002 pour une neutralité engagée, le numéro argumentation analyse du discours de 2013 dirigé par Corrène, analyse du discours et engagement du chercheur. Et moi, j'ai été frappée par l'insistance avec laquelle un certain nombre de textes, dont celui de Josiane Boutet, signalaient la dimension critique de l'analyse sociolinguistique ou de l'analyse du discours. Et c'est la notion de discipline critique qui est mise ici en avant sur le modèle de la conception forte de critique dérivée de Bourdieu. Donc l'analyste entreprend un travail de dévoilement. L'examen attentif du discours doit permettre de dénoncer les pseudo-évidences d'une part et d'agir sur le réel de l'autre. Ce pouvoir de démystification et d'action est au cœur de l'entreprise et il manifeste un véritable projet d'engagement. Et Josiane Boutet retrace les beaux jours de cette tendance dans les années 70-80 jusqu'à la minorisation de la pensée critique et matérialiste dans l'ensemble du champ scientifique, dit-elle, qui cède le pas à l'ethnométhodologie, à l'analyse conversationnelle, etc. Mais elle note une remobilisation des chercheurs ces 15 dernières années. Cette approche s'élève aussi contre la tendance, c'est intéressant, à l'implémentation technologique, en appelant à privilégier la réflexion critique dans une ère où les technologies, le quantitatif et sa mise à disposition pour des pratiques sociales, je sais pas, commerciales, politiques et autres, l'emportent sur l'analyse critique. Et donc, Josiane termine avec cette belle phrase, pleine de panache. Nous montrons que par nos travaux, que notre pertinence et notre pouvoir découle de notre capacité non pas à découvrir de nouvelles machines, mais à agir sur le monde pour le transformer. Ce rapport à la technologie, mais aussi aux analyses assistées par ordinateur, donc aux analyses purement quantitatives, est certainement à creuser. On peut noter que si l'analyse quantitative est plusieurs fois évoquée, elle n'est pas ici pensée et revisitée dans l'horizon de ce numéro à la fois synthétique et programmatique. De même chose dans le domaine de l'analyse du discours, je vais aller vite, donc Anger Müller appelle la vocation militante de la première école d'analyse du discours en France, celle de la Critical Discourse Analysis anglophone, qui entend intervenir dans des luttes politiques tout en conservant la recherche sociale comme une arme à des fins autres que scientifiques.
Et là encore, on trouve un vœu fortement exprimé de retrouver l'esprit critique du passé. Et déjà, dans ton titre, Johannes, renouons avec les enjeux critiques de l'analyse. Donc on peut se demander si ce désir de critique sociale est, dans le domaine francophone, particulier à la revue telle qu'elle définit sa mission, ou s'il est vraiment un symptôme des temps. Dans quelle mesure le retrouve-t-on dans le domaine des sciences du langage telle qu'elle se développe aujourd'hui en France ? Il faut bien voir que l'analyse du discours actuellement continue à se différencier de la Critical Discourse Analysis. Comme nous l'avions noté, Dominique Minguenot et moi-même, dans la livraison de 2012 d'argumentation analyse du discours, l'analyse du discours entre critique et argumentation, parce que Dominique soulignait que le seul fait d'analyser le fonctionnement d'un texte ou d'une conversation a déjà une force critique. Il ajoutait, au-delà de visées militantes immédiates, c'est par nature une activité subversive qui touche à des illusions constitutives des sujets parlants. Donc c'est une approche qui, de même que la mienne, donc de l'argumentation dans le discours, exprime une confiance dans la vertu intrinsèque de l'analyse et de ce fait n'appelle pas d'engagement explicite. Bon, c'est une question traitée depuis longtemps qui reste encore à débattre. Elle pose la nécessité de la part du chercheur, quand on fait de l'analyse critique, d'appréhender sa mission en fonction des valeurs qu'il défend et de la vision du monde qui est la sienne, si bien qu'il soumet son travail à un objectif explicite, un préalable, défini comme une lutte, par exemple, contre les discriminations et les inégalités, une résistance au pouvoir. En bref, il y a là un ensemble de considérations éthiques et politiques préalables en fonction desquelles l'analyse scrute le discours. Alors, ce qui est intéressant aussi, très rapidement, c'est qu'au-delà des considérations théoriques pures, ce numéro anniversaire met en évidence la façon dont les linguistes peuvent intervenir. Intervenir dans diverses pratiques sociales et professionnelles, soit pour en dévoiler les travers, soit pour les améliorer, ou les deux. C'est donc du pouvoir d'action des travaux sur langage et société qu'il est question, dans un sens concret, hein. Alors c'est très flagrant dans les études sur l'école, mais pas seulement. Par exemple, Ambi reprend l'exemple du plurilinguisme des élèves, qui ne constitue pas, selon lui, comme on a pu le prétendre, un obstacle aux apprentissages, en dénonçant la violence symbolique de l'imposition d'un code culturel qui est jugé seul légitime et supérieur aussi, hein. Donc le sociolinguiste dénonce le rôle de l'école, dans, dit-il, la construction de la langue légitime et l'inégale distribution du pouvoir symbolique qu'il confère. Il a donné un exemple très intéressant d'une tâche de rédaction que je n'ai pas le temps d'analyser ici. Il en va de même, par exemple, de l'article d'Isabelle Église sur multilinguisme et hétérogénéité sur le Global South que je n'ai pas le temps de traiter ici. Alors, je vais terminer là sur un dernier point qui est un petit peu un regret, peut-être une proposition d'extension du champ de la revue. En effet, j'ai été frappée, c'est ma déformation professionnelle, par le fait que l'argumentation est absente de ce numéro, ce qui est tout à fait normal parce que elle est très faiblement présente dans la revue bon, et que c'est un numéro anniversaire. Alors, néanmoins, on aura d'autres anniversaires, hein. il me semble que ce que j'ai appelé l'argumentation dans le discours, mais que d'autres pratiquent sous une autre étiquette, constitue une dimension inhérente au langage, puisque là, cette dimension est toujours en situation, elle est emprise sur des enjeux sociaux, et je voudrais pour finir développer quelque peu cet aspect. Bon, donc, si l'objet de l'investigation est le langage en usage et en situation dans ses composantes socio-discursives et dans les nombreuses fonctions qu'il peut remplir dans l'espace social, il importe, me semble-t-il, de prendre en compte sa dimension argumentative. Alors, nous savons que l'argumentation reçoit des définitions et des extensions diverses, donc elle peut très bien être, comme dans la logique informelle, l'étude des arguments et de leur validité logique, hein, vous savez, les fallacies. Et là, l'aspect langagier n'est pas vraiment pris en compte. Elle peut aussi être envisagée dans une perspective de débat et de résolution de conflits, Ce sont alors les normes du dialogue raisonné qui priment, comme chez Habermas ou dans la pragma dialectique, où le discours est pris en compte, mais n'est pas central, mais elle peut aussi être saisie dans sa matérialité langagière. Car c'est bien en discours que l'argumentation se construit dans un échange avec l'autre qu'il s'agit d'amener à ses vues. Comme le rappelle Christian Plantin, déjà en 1995, la langue naturelle n'est pas un obstacle, mais la condition de l'argumentation. Il disait ça pour les spécialistes d'argumentation. Examiner l'argumentation telle qu'elle s'inscrit dans le discours, au-delà de la schématisation qui restitue un raisonnement abstrait, c'est voir comment fonctionne concrètement l'analyse de persuasion dans une situation de communication donnée. Le discours argumentatif ne se déroule pas dans l'espace abstrait de la logique pure, mais dans une situation de communication où le locuteur présente son point de vue dans la langue naturelle avec toutes ses ressources, qui comprennent aussi bien l'usage des connecteurs, des déictiques, que la présupposition et l'implicite, les marques de stéréotypie, la polysémie, le rythme, que sais-je. C'est dans l'épaisseur de la langue que se forme et se transmet l'argumentation, et c'est à travers son usage qu'elle se met en place. L'argumentation, donc, n'est pas le déploiement d'un raisonnement qui se suffit à lui-même, mais un échange actuel ou virtuel entre deux ou plusieurs partenaires qui entendent influer l'un sur l'autre. Donc, il faut voir comment l'analyse peut intégrer la composante argumentative pour éclairer le fonctionnement du discours en situation de façon aussi exhaustive que possible. Alors, dans la perspective socio-discursive unanimement adoptée par les analyses du discours de toutes obédiences, l'accent ne doit pas être mis seulement sur la mise en mots des arguments, mais aussi sur les contraintes institutionnelles, les pesanteurs doxiques et idéologiques, les jeux de pouvoir. L'analyse se doit de dégager les éléments constitutifs de l'argumentation discursive en les rapportant à une situation de discours, à des rapports de place, un interdiscours saturé d'idées reçues et d'argumentaires préformés. C'est dire que l'argumentation apparaît comme modelée par des contraintes sociales et modelant à son tour la société en façonnant et en confrontant des façons de voir et de penser. Donc, selon moi, l'intégration de l'argumentation rhétorique à l'analyse du discours et à l'espace de réflexion de langage et société implique un triple déplacement par rapport aux théories classiques de l'argumentation, mais un déplacement qui est aujourd'hui effectué. C'est celui qui replonge les raisonnements abstraits dans le fonctionnement global du discours sans les y dissoudre, celui qui replonge l'argumentation dans un espace social comprenant des normes, des contraintes institutionnelles et des jeux de pouvoir qui la contraignent, sans diluer l'entreprise de persuasion, et celui qui prive l'argumentateur de sa maîtrise absolue en faisant ressortir les forces sociales qui le conditionnent sans le priver de son agentivité, donc de sa liberté, de sa responsabilité. Il faut ajouter que dans le cadre de l'argumentation dans le discours, la notion d'argumentation reçoit une extension maximale dans la mesure où elle recouvre aussi bien les genres de discours qui défendent ou qui réfutent explicitement une thèse que ceux qui se contentent d'orienter des façons de voir et de penser. Donc c'est l'idée que toute parole tend à faire partager un point de vue, une manière de réagir à une situation, de ressentir un état de fait. Et les schèmes de raisonnement, ils sont plus ou moins élaborés, plus ou moins visibles. Et souvent, l'orientation donnée au discours peut apparaître dans des traces langagières comme les modalités, les axiologiques, etc., sans que se dégage pour autant un argument formel. Pourtant, cet argument ne s'énonce que sous une forme elliptique et qui nécessite le recours de l'interdiscours pour être reconstruit. Alors, c'est pour distinguer donc les discours à visée persuasive de ceux qui entendent simplement orienter, problématiser, faire partager, que j'avais établi une différence entre la visée argumentative et la dimension argumentative du discours, qui a une dimension argumentative qui va être traitée, c'est ma petite seconde de publicité, hein, qui va être traitée dans le prochain numéro, le numéro 20 d'argumentation et analyse du discours, qui va porter sur la dimension argumentative. Et je veux dire que déjà, Dominique Maguenaud, dans une remarque peu exploitée, avait dit « Est-ce que l'ensemble des énoncés ne possède pas de près ou de loin une dimension argumentative ? Pour résoudre ces difficultés, on doit en général faire intervenir une distinction entre argumentation directe et indirecte. » Ça date de 1991. À noter que l'élargissement de la définition de l'argumentation mène à déceler en celle-ci une dimension constitutive du discours, qui en rend son étude d'autant plus indispensable. Je veux dire par là que si le discours comporte des éléments sine qua non qui la constituent comme telle, l'argumentation en fait partie au même titre que l'énonciation, que le dialogisme, etc. C'est à l'articulation de toutes ces composantes, donc l'usage de la langue en situation, le dialogisme, la parole comme action, que se situe l'argumentation, donc entendue comme une dimension constitutive non pas de la langue mais du discours. L'échange verbal éclaire les choses d'une certaine façon. Il en renforce ou modifie la vision, de même qu'il renforce, infléchit ou modifie les valeurs communes qui le sous-tendent. Et de ce fait, il contribue à modeler des façons de voir et de faire, à construire des identités, à mettre en place des polémiques constitutives de la vie démocratique. Et donc, on se retrouve ici dans le pouvoir d'action du discours dont parle beaucoup ce numéro de Langage et Société. Bon, alors bien sûr, il y a d'autres façons d'appréhender l'argumentation, mais au-delà de certains points que j'ai exposés qui ne font pas le consensus, je me rapporte à toutes les pratiques de l'argumentation qui sont soucieuses de la matérialité langagière, qui soulignent que les arguments se construisent dans l'épaisseur du discours et qui ne font sens qu'à l'intérieur du réseau interdiscursif et du cadre communicationnel dans lequel ils s'inscrivent. On est bien au cœur de l'espace du questionnement qui est ici le nôtre, celui du rapport entre discours et société, qui examine les enjeux sociaux de l'argumentation en discours et la façon dont les interactions argumentatives contribuent à façonner l'espace social dont elles sont tributaires. Dès lors, il me semble qu'une revue comme Langage et Société pourrait prendre en compte cet aspect du discours dans son rapport à la société dans laquelle il s'inscrit et sur laquelle il tente d'agir. Et pour terminer, je voudrais dire deux choses. D'abord, je voudrais que vous admiriez que j'ai absolument tenu les temps. Et deuxièmement, et surtout, je voudrais dire bravo pour ce magnifique numéro anniversaire qui est vraiment une somme. Je vous remercie.
Merci. Donc, la parole maintenant, c'est à la salle. Pour des questions, nous avons 20 minutes.
C'est plutôt des réflexions suscitées par ta présentation amicalement critique. Disons que quand tu parles de Philippe Ambi et de son vagabondage, il y a une interrogation qui, évidemment, il n'y a pas de discipline nationale, mais il y a des histoires nationales institutionnelles. Et ce n'est pas pour rien, je pense, que ce soit un Belge qui parle de vagabondage. Et c'est vrai que cette dilution des frontières chez nous est peut-être plus facile que dans un pays comme la France, avec une organisation administrative et étatique des savoirs qui parfois me fait un peu peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu parles de la disparition de l'histoire, et en même temps, il me semble qu'il y a peut-être un danger avec une étiquette comme les Discourse Studies de perdre aussi la dimension historique et épistémologique propre au développement des disciplines comme l'analyse du discours Friend Touch, si je peux m'exprimer ainsi. Et la troisième chose, c'est j'ai beaucoup aimé quand tu parles de la discipline critique et puis du pouvoir d'action. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous demande aussi à nous, chercheurs, de tenir un discours public. Alors, je pense que ça vient aussi du numérique. Ça vient du fait que pas mal de chercheurs, chercheuses ont des blogs, sont en effet plus militants parce que cette parole, maintenant, ben, on est lu. On est beaucoup plus lu qu'auparavant. Et donc, c'est vrai que ça nous pose une question parce qu'avant, on pouvait se retrancher aussi en disant « on ne veut pas tenir... un discours immédiat, mais si nous on ne le tient pas, ben, les autres vont le tenir. Hein, donc voilà, ça c'est une série de réflexions et je trouve que vraiment c'est au cœur de ce que tu nous as montré et je pense en effet que l'argumentation est aussi une réponse, enfin parmi d'autres, aux questions que tu as posées. Merci.
Alors très rapidement, juste je me demande si, bon c'est vrai que l'institutionnalisation ici en France est très forte, mais dans d'autres pays que je connais, le découpage des disciplines et surtout dans les parcours de carrière est quand même très très net. Donc je me demande si c'est seulement une singularité française. Et pour la dernière chose, tu disais, il y a cette question qui touche, et on en a souvent parlé, à la question de l'expertise, c'est-à-dire qu'on s'adresse de plus en plus aux scientifiques.
pas seulement en tant que chercheur, mais en les faisant devenir experts. Et donc, la question qui a aussi été discutée de la frontière entre le... Je parle maintenant des appels qu'on fait à ces gens, pas des blocs qui peuvent tenir spontanément, est aussi un problème. Je veux dire, est-ce que c'est la même chose? Oui, Johannes.
En fait, quand on parle de cet espace de langage de société, je pense qu'on ne peut pas expliquer ce succès, cette évolution ces dernières années, simplement en matière d'idées. En fait, je pense que ce n'est pas qu'on essaye de travailler sur langage et société, et c'est finalement ce qui explique pourquoi on fait un certain type de recherche. Mais en fait, on est impliqué dans plein de contraintes. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire en même temps. Il y a l'enseignement, il y a l'administration, il y a beaucoup de choses qui sont sur nos bureaux. Et du coup, je pense que dans cet espace qui est le nôtre, il faut peut-être réfléchir un peu plus sur ces contraintes qui ont changé ces dernières années. Et en fait, il y a ces contraintes institutionnelles, il y a des traditions, il y a les espaces nationaux qui sont parfois un peu spécifiques. Et surtout, en fait, ces dernières années, avec les réformes universitaires, on voit que la vie universitaire a beaucoup changé. Et du coup, l'enseignement pèse toujours beaucoup, mais de manière peut-être différemment. Il y a des diplômes, des grés qui sont pluridisciplinaires. Et après, il y a aussi des pratiques, des manières de faire qui sont différentes. Il y a plus de travail sur projet, il y a plus de précarité, je pense qu'il y a un marché de jeunes chercheurs qui a beaucoup grandi ces dernières années, depuis 20-30 ans, et où il y a beaucoup de pratiques qui sont nouvelles, qui sont pas du tout dans cette visée bien structurée, bien institutionnelle, bien disciplinaire aussi. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé, disons, dans l'infrastructure de ce qu'on fait. Et ça invite peut-être à réfléchir sur les conditions de nos propres discours.
Donc tu penses que c'est principalement une question de contraintes institutionnelles et de développement de carrière?
Bien sûr, ce n'est pas seulement ça, ce serait vraiment réducteur, mais quand je vois le succès de la Critical Discourse Analysis dans l'espace anglophone, c'est sûr, il y a une nouvelle ambition de ceux qui sont dans l'espace de la pédagogie des langues, qui se limite plus à faire des analyses, des interactions dans la classe, mais qui revendiquent leur ambition citoyenne. Et du coup, c'est quelque chose qui reflète une transformation de cet espace pédagogique. Et du coup, je pense qu'il y a des leçons à appliquer sur notre propre champ, qui viennent précisément de ce qu'on fait.
Pour aller dans le sens de Ruth Amossi, il me semble que les étudiants que j'ai vus dans les dernières années de mon activité universitaire avaient une façon de travailler qui était plus ancrée dans le terrain. C'est-à-dire que, au fond, s'ils travaillaient sur l'hôpital ou s'ils travaillaient avec des urbanistes, justement, ce qui était naturel pour eux, c'est l'échange avec des gens d'autres disciplines plus que la tradition académique et le purisme d'une certaine analyse de discours. Donc, il me semble qu'effectivement, ce travail sur le terrain, il est dû largement aussi aux conditions de financement de la recherche. Donc, je rejoindrai de ce point de
c'est
vue.
Une c'est une demande institutionnelle et sociale.
Il y a des demandes institutionnelles et la jeune génération fonctionne donc avec des modèles qui nous bousculent.
Alors, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est si on prend, je sais pas, l'analyse du discours ou l'argumentation dans le discours, moi je vois que les étudiants, bon, qui sont formés en nous, chez nous par exemple, comme ce sont pas des disciplines, hein, c'est quelque chose qui est au cœur de, voilà, la croisée des disciplines. Et donc certains étudiants qui terminent une thèse, moi j'en ai un qui est allé en littérature, j'en ai un qui est allé en sociologie, un autre qui est allé en communication. Donc en fait, il y a là, à partir de cette focale mise sur le discours ou sur l'argumentation, en termes en près de pratiques professionnelles et aussi en termes de carrière, des possibilités qui s'ouvrent justement parce que on n'est pas, certains, j'ai même oublié de dire certains en sciences du langage, voilà, qui s'ouvrent de façon plus souple, ce qui correspond un petit peu aux besoins aussi d'avancement et de recrutement de l'institution aujourd'hui. C'est un autre point, mais c'est important aussi.
Alors, d'autres questions ?
S'il n'y a pas des questions immédiates, et comme je vois là Marianne Pavot qui s'encadre dans la porte, je voulais reprendre peut-être le point que j'ai été obligée de zapper, et c'est cette question de savoir jusqu'à quel point les nouvelles technologies mettent en cause les présupposés des études du discours. Parce que Lulotte et Pavot, quand elles parlent de production langagière issue d'un appareil informatique en contexte connecté, et elles soulignent beaucoup l'insuffisance des travaux qui voient là seulement des nouveaux terrains pour décrire des objets ou des catégories qui existeraient déjà. Là, je vous cite. Hein. Et donc là, je pense que c'est aussi peut-être une... Alors c'est très intéressant, la position est explicitée avec toutes sortes de notions comme l'écrit d'écran et l'énonciation éditoriale, l'hypertextualité, etc. Mais quand elles disent « nous pensons que les linguistes doivent modifier leurs équipements théoriques et méthodologiques », on peut se demander, et c'est une question là que je vous pose, dans quelle mesure nous avons vraiment affaire à une sorte de nécessité de virer complètement de bord, de changer complètement nos cadres d'analyse, de jeter le tout aux orties. Et d'ailleurs, Dominique parlait de cette idée de voir qu'il ne faudrait peut-être pas disqualifier comme obsolète tout ce qui s'est fait avant le développement de l'univers numérique. Et je pense que ça, c'est une question qui a bien été mise en, qui a été soulevée, et bon, de façon militante, bien mise en valeur. J'ai été certes persuadée par ces positions, par le très beau numéro que Marianne Pavot et Stéphanie Pahud ont fait dans l'analyse et argumentation du discours sur les nouveaux féminismes, justement en ligne. Mais je me demandais quand même il faut vraiment considérer que les catégories utilisées sont périmées, même si leur mise en œuvre suscite des transformations. Donc voilà, je me pose une question à moi-même, mais je vous demande évidemment à vous d'y répondre.
Neuf minutes. Bon, nous n'avons pas les mêmes.
Pas la même montre. Moi, je suis avec toi là. Oui, Marianne, il y a Marianne qui
veut. Marianne, tu veux prendre la parole ?
Les communications. Je voudrais dire que c'est un peu difficile de répondre à ta question parce que tu radicalises notre position avec un vocabulaire qui est pas du tout celui qu'on emploie. On n'a jamais employé périmé. On n'a jamais dit qu'il fallait jeter les théories antérieures avec l'eau du. Donc c'est un petit peu difficile de répondre à partir de répondre à partir d'une position, on va dire, un peu complexe et délicate à une question qui est un petit peu binaire, pardonne-moi. Donc voilà, je ne sais pas très bien comment répondre. Ce qu'on montre avec Christine, et ce que je montre dans mes travaux depuis plusieurs années sur le discours numérique, c'est qu'il y a des transformations, des adaptations, des prises en compte de traits caractéristiques des discours numériques, comme la délinéarisation, l'augmentation, l'innombrabilité, des choses comme ça, que nous devons prendre en compte et que l'analyse du discours, pour le moment, n'est pas équipée pour prendre en compte ces phénomènes, et que les discursivistes qui se saisissent des discours numériques, pour la plupart, mais c'est en train de changer, et ça change très rapidement d'ailleurs, pour la plupart, adoptent effectivement les théories et les méthodologies qui existent. Il n'est évidemment pas question de leur en vouloir, mais du coup, occultent un peu, laissent un petit peu de côté des traits qui sont spécifiques et qui sont liés à la nature algorithmique des discours, qui sont liés au fait qu'en ligne, ça n'est pas toi qui écris, mais c'est un programmeur quand même qui écrit à ta place, des choses comme ça. Voilà, donc là, extrêmement rapidement, mais ce sont des choses qui sont expliquées de manière non binaire, j'y insiste, dans l'article de Christine Develotte et de moi-même.
Merci. Merci beaucoup.